Europe 1.
Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Une étonnante histoire. Aujourd'hui, l'histoire d'un gardien de la paix qui est le grade le plus bas de la police nationale, qui résout une affaire criminelle sur laquelle pendant 4 ans, tous les officiers se sont cassés les dents. Cette histoire, c'est la vôtre, Philippe Savelli. Bonjour.
Bonjour.
Vous l'avez raconté dans un livre publié aux éditions Maya, Mon combat pour la vérité. C'est une affaire qui remonte aux années 80, alors je suppose que vous avez attendu la retraite pour la raconter tranquillement, c'est ça?
C'est ça, tout à fait, à la retraite en 2009.
L'histoire donc d'un violeur en série qui sévit pendant 4 ans dans le quartier de la Villeneuve, à Grenoble, en toute impunité. Jusqu'à ce que le patron vous nomme envers et contre tous dans cette enquête que vous allez résoudre. Alors évidemment, et c'est toujours le cas, je vous rassure sur toutes les histoires personnelles que je raconte ici. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vous croire entièrement. J'ai donc respecté votre récit presque à la lettre, même si, et chacun va pouvoir s'en rendre compte dans un instant, cette histoire est véritablement incroyable. La voici, je l'ai écrite avec Christophe Dumazer, la réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Tiens, je vous pose le dossier sur la table. Paf ! C'est une affaire de violeur en série. À ce stade, elle n'est pas résolue. On est en 1987, depuis 4 ans, depuis janvier 83, 20 gamines âgées de 8 à 15 ans ont été violées les unes après les autres, dans la même cité, à la Villeneuve, au sud de Grenoble. Elles ont toutes décrit le même homme, le même mode opératoire, un brun avec des lunettes noires qui se balade avec un colis sous le bras pour faire croire qu'il est livreur. 20 fois, il les a coincés dans la cage d'escalier. On aurait dû l'arrêter. Enfin, un type, toujours le même, qui sévit au même endroit, qui s'en prend au même genre de fillette, à la même heure. Comment se fait-il qu'il est dans la nature, bordel? Où ça a merdé? Qui a merdé? En tout cas, ça a merdé. Et au bout de 4 ans et demi, le patron de la police de Grenoble, le commissaire Nadjari, convoque tous les limiers qui travaillent sur le dossier, et notamment les inspecteurs de la brigade des mœurs. Ce sont eux qui ont l'enquête. Mais il fait aussi venir un intrus, un gardien de la paix, un simple gardien de la paix, Philippe Savelli. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Messieurs, j'ai demandé à l'agent de police judiciaire adjoint Philippe Savelli de se joindre à nous dans ce dossier. Je l'ai affecté au poste de police de la Villeneuve. Ce sera sa mission unique. Et dans cette enquête, il fera fonction d'inspecteur de police. Entendu? Et je demande évidemment à la brigade des mœurs de collaborer avec lui. Ok? La tronche des officiers présents. Savelli à la tête d'une enquête criminelle? Mais enfin, Savelli, c'est Pinot, simple flic. C'est un policier en tenue, c'est un gardien de la paix, c'est le grade le plus bas de la police. Un type qui fait des patrouilles, quoi, qui arrête des petits voleurs. Savelli. Oh, oh. Eh oui, mais le patron a repéré qu'il avait du flair. Il a débrouillé 2-3 petites affaires récemment. C'est un bon Savelli. Cela dit, en lui confiant cette enquête, il ne lui fait pas un cadeau. Un jour, Philippe passe dans le couloir et il surprend une conversation entre inspecteurs.
C'est pas ce petit merdeux qui va nous apprendre à faire notre boulot, non mais...
Il a déjà compris que les autres, les officiers, les inspecteurs sont tellement jaloux qu'il ne peut pas compter sur eux. Sur ce coup-là, il sera seul. Et pourvu qu'il ne lui complique pas la tâche. Ce qui motive Philippe Savelli dans cette enquête? Les victimes, les 20 gamines, ce qu'elles ont vécu, ça le bouleverse en vérité. Et d'ailleurs, il va en voir une, la dernière. Une fillette de 12 ans qui a été violée dans la cage d'escalier de son immeuble, au niveau du 11e étage. Elle a tellement saigné au niveau du sexe que du sang a coulé sur le sol et qu'il a marché dedans. On a donc l'empreinte du violeur dans le sang de la gamine. Et donc Philippe va la voir chez elle. Et c'est assez touchant parce qu'il appréhende un peu. Il a peur de craquer, il a peur de ne pas savoir lui parler, de ne pas poser les bonnes questions. Il débute, mais assez vite une sorte de confiance s'installe entre elle et lui. Alors, raconte-moi comment ça s'est passé, comment tu l'as rencontré ce monsieur? Il est monté avec moi dans l'ascenseur. Il m'a dit qu'il devait livrer un colis. Il avait un carton marron sous le bras. Il m'a demandé de lui montrer le 12e étage, là où habite la dame pour le colis. Mais c'était pas au 12e, c'était au 11e. Alors on est redescendu dans l'escalier. Et puis il a sorti un couteau. Crochu. Comme une serpette. Et il m'a dit, je suis poursuivi par la police. Il m'a demandé de me mettre toute nue. Et puis de lui baisser son pantalon. Il m'a mis un tricot autour des yeux. Il m'a fait asseoir sur lui. J'ai senti quelque chose de très dur. Du sang a coulé entre mes cuisses. Philippe Savelli a lu le dossier d'enquête et il a un plan tout simple. C'est à se demander comment personne n'a eu l'idée jusqu'ici.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui comment un simple gardien de la paix, Philippe Savelli, est arrivé à résoudre une affaire sur laquelle pendant 4 ans, tous les officiers de police s'étaient cassés les dents. Et je tiens cette histoire d'un livre écrit par Philippe Savelli lui-même et publié aux éditions Maya, « Mon combat pour la vérité ». L'histoire se passe dans le quartier de la Villeneuve, à Grenoble, dans les années 80, où sévit depuis 4 ans un violeur en série qui a agressé 20 fillettes de 8 à 15 ans. En 4 ans, les policiers de la brigade des mœurs ne sont pas arrivés à l'identifier. Le directeur de la police de Grenoble décide d'adjoindre à l'enquête un simple gardien de la paix qui vient de résoudre quelques affaires. Philippe Savelli s'attaque au dossier dans la défiance générale. Et donc, il a une idée, toute simple, tellement simple qu'il s'étonne que personne ne l'ait eue jusqu'ici. Le violeur frappe toujours dans le même quartier, à peu près à la même heure, et il se présente toujours comme un livreur de colis. Toutes les victimes disent qu'il avait un carton ficelé sous le bras. Alors son idée, la voilà, toute simple. S'installer sur le toit d'une tour, et avec des jumelles, attendre qu'un type avec un colis se présente à l'horizon. La planque commence. Seul. Les autres lui ont dit...
Non mais tu te crois où? Tu te crois en Amérique? On n'a pas les moyens de mettre en place une telle surveillance. Faut arrêter le délire.
Tant pis. Il y va tout seul. Tous les jours, il va s'installer sur le toit d'un immeuble. Seul. Avec une arme de service, une radio et ses jumelles personnelles. Et ça dure, tenez-vous bien, 5 mois. Et pendant ce temps, d'autres viols sont commis. Le patron lui met la pression. Et puis un jour, à 14h30, il voit dans ses jumelles un type avec un petit carton sous le bras. Il tente d'appeler ses collègues à la rescousse.
Savelli pour centrale à vous. Savelli pour centrale à vous.
Il n'y a pas d'équipe disponible. Entre-temps, le type en bas a disparu. Normalement, Philippe n'a pas le droit d'y aller seul. Tant pis, il y va. Il descend de son toit, il arrive en bas de l'immeuble, mais trop tard. Il ne le retrouve pas. Premier loupé. C'est rageant quand même, après 5 mois passés sur le toit. Un mois passe. Le 22 octobre, Philippe est en patrouille dans le quartier avec un collègue, un inspecteur principal et un stagiaire. Ils vont dans le coin de la statue à deux têtes, un dédale d'allées, de passages, d'entrées d'immeubles. Et là, Philippe voit un type surgir de nulle part, qui porte un petit carton, qui a des lunettes noires et qui semble porter une perruque. Le portrait dessiné par toutes les victimes. Il se précipite vers son collègue, il n'a pas ouvert la bouche que l'autre lui dit goguenard.
Ah ! Je parie que tu as vu le violeur.
Il se fiche de sa poire. Et cette fraction de seconde de déstabilisation suffit au suspect pour disparaître dans les dédales. Deuxième loupé. Cela dit, maintenant il a vu sa tête. C'est imprimé là dans sa caboche. Et en attendant de le recroiser, il fait coller des affiches un peu partout avec le signalement du violeur. Genre « Wanted ». Et en attendant, fini les planques sur les toits. Maintenant, Philippe est capable de le reconnaître. Alors il se trouve que le poste de police municipale offre une assez jolie vue sur l'endroit où il l'a croisé l'autre jour. La statue a deux têtes. Cette fois, ils seront en binôme. Le 27 octobre à 13h, Philippe prend son tour de garde avec Martine, une inspectrice qui ne le porte pas vraiment dans son cœur. À 14h45, Philippe voit un homme en sweat gris, avec des cheveux courts, grisonnants, sans lunettes de soleil, assis sur la butte juste en face. Le type paraît plus vieux que celui qu'il a vu l'autre jour. Mais il porte un petit carton. Alors il va prévenir sa collègue, puisqu'il faut être deux minimum pour intervenir. C'est la règle. Et là, vous savez ce qu'elle lui dit.
« Je vais pas avec toi, enfin. Tu vois des violeurs partout. »
Le type est là, à moins de 200 mètres. Elle le voit. Ils le voient tous. Ah ben là, justement, on le voit plus, tiens. Tant pis pour le règlement. Philippe fonce tout seul. Il grimpe la colline. Il tombe nez à nez avec le type. Nez à nez. Que faire? Il crie.
« Police, bougez plus !»
Et il le ceinture. Et là, leurs regards se croisent. Et merde! Le type a les yeux bleus. Or, toutes les fillettes ont décrit des yeux marrons. Évidemment, le gars s'engouffre dans la brèche.
Vous m'avez fait mal. Enfin, j'attends ma femme et mes deux enfants. Vous m'agressez, ça va pas?
Imaginez ce qui se passe à ce moment-là dans la tête de Philippe. Depuis des mois, tous ses supérieurs, sauf le grand patron, se moquent de lui.
Tu vois des violeurs partout.
Si c'est pas lui, ça va ruiner son enquête. Il est peut-être en train de commettre une bavure. Alors il relâche l'étreinte. Et le gars reprend de l'assurance.
Oh ben dites donc, je vais porter plainte pour agression.
Philippe se dit, je me suis trompé. Et là d'un coup, le type se met à courir. Nom de Dieu, c'était bien lui. Alors il se met à courir derrière lui. Europe 1.
On de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un simple gardien de la paix, Philippe Savelli, tiré de son livre publié aux éditions Maya, Mon combat pour la vérité. Dans le quartier de la Villeneuve, à Grenoble, dans les années 80, en 4 ans, un violeur en série a agressé 20 fillettes de 8 à 15 ans. Jusqu'ici, les policiers ne sont pas arrivés à l'identifier. Le directeur de la police de Grenoble décide d'adjoindre à l'enquête un simple gardien de la paix qui vient de résoudre quelques affaires. Philippe Savelli s'attaque au dossier dans la défiance générale. Par deux fois, il manque de l'arrêter. Et nous en étions au moment où il vient de le voir et il se lance à sa poursuite seul. Il court, mais dans l'herbe du parc, il glisse. Et puis à un moment, ses jumelles se prennent dans une branche et manquent de l'étrangler. Et il le voit qui prend de l'avance, alors il tire en l'air. Il espérait que ça allait l'arrêter, tu parles, ça lui donne des ailes. Et là, il voit un vététiste.
Police, donnez-moi votre vélo.
Il rattrape son retard, le type se retrouve coincé contre un mur. Et là, il sort sa serpette de jardinier. L'arme qu'ont décrit toutes les victimes. Philippe brandit son arme.
On ne bouge plus.
Il s'approche pour lui passer les menottes, et l'autre se met sur le côté et se remet à courir. Et le gars disparaît dans le dédale des immeubles. Philippe le cherche comme un chien de chasse. Une vieille dame lui dit.
Je l'ai vu. Il a couru vers le bus là-bas qui arrivait. Il est monté dedans.
C'est fini. Il l'a encore loupé. Et il est bien dans la merde parce qu'il a tiré 4 balles en plein jour, en plein centre-ville. Il va falloir qu'il s'explique. C'est un cauchemar. Heureusement, le patron le soutient toujours.
Je vous couvre. Mais ne me décevez pas, parce que si vous n'y arrivez pas, je pourrai plus rien pour vous.
Alors il enchaîne. Et pourtant, il est épuisé, physiquement et moralement. Mais il a plus que jamais le visage du violeur gravé dans sa tête. Alors il plonge dans le fichier Canonge, le fichier de tous les délinquants du coin. Et il fait défiler les photos, une par une. Il ne le trouve pas. Tant pis, il continue, il va voir les commerçants de Villeneuve. Le boucher, le boulanger, le crémier, les bistrotiers, les jardiniers. Et en début d'après-midi, deux policiers municipaux viennent le voir.
Dis, on a quelque chose pour toi. Jiménez, un cantonnier de la commune. Il a vu un jogger dans le parc qui correspond au signalement de ton gars. Et d'ailleurs, il l'aurait déjà vu, ce gars-là, dans un gymnase.
Philippe va tout de suite voir le cantonnier.
On me dit que vous avez vu un type qui correspond au signalement ? Ah ouais ? Ouais. Et ce gars-là, vous voyez, je crois bien qu'il va à la salle de gym Colbert, au centre-ville. Je le croisais là-bas, il y a 2 ans. La trentaine, les tempes grisonnantes, les yeux bleu clair.
La salle de gym Colbert. Philippe s'y pointe dès le lendemain matin. Et par chance, le gérant est un homme organisé. Il a une fiche pour chacun de ses clients, avec une photo. Philippe les fait défiler une par une. Albert, Arnaud, B comme Bernard, Berthier. Et puis soudain, un flash. Son regard se bloque sur une photo. C'est lui. C'est lui. Daniel Bonigène. 29 ans, mécanicien résident à Échirolles. C'est lui, il habite à 2 pas de Villeneuve, il le tient. Il fonce l'annoncer au patron, et là c'est la douche froide.
Bravo, ça m'est dit. Vous avez fait un excellent travail, mais maintenant, vous devez laisser faire la brigade des mœurs. Hein, vous leur remettez votre fiche, ok ?
Frustration, énorme frustration. L'enquête est reprise par ceux qui, depuis le début, sabotent son enquête, par ceux qui se moquent de lui. Et les gars de la brigade des mœurs décident de montrer la photo aux victimes. Et ça, Philippe, ça lui plaît pas du tout. Une photo noire et blanc, des gamines qui ont, pour certaines, été agressées il y a 5 ans. Elles ne le reconnaîtront pas. Il le dit à ses collègues. Leur réponse est cinglante.
Tu fais chier, putain. Reste à ta place. On sait ce qu'on fait, hein ? Contente-toi de faire ce qu'on te dit. Et convoque toutes les victimes lundi 14h à l'hôtel de police.
Vous devinez la suite ? Le lundi, en fin de journée, l'inspecteur de la brigade des mœurs vient voir Philippe.
Tiens, tu peux la garder ta photo. Tu la mettras dans ta collection. Aucune fille n'a reconnu ton gars. Aucune.
Philippe est anéanti. Parce qu'il est sûr que c'est lui. Il en est certain. Et là, un de ses collègues, un îlotier en tenue, comme lui, vient le voir.
Écoute, Philippe, moi, comme toi, je suis convaincu que c'est lui. Le mec, il va continuer. Alors oui, tu seras coupable de n'avoir rien tenté. Va l'interpeller, tu risques quoi ? Allez, tiens, je vais avec toi.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une histoire tirée du livre de Philippe Savelli, publié aux éditions Maya, « Mon combat pour la vérité ». Dans les années 80, à Grenoble, Philippe Savelli, simple gardien de la paix, est intégré à une enquête sur laquelle tous les officiers se cassent les dents depuis 4 ans. Un violeur en série qui a fait 20 victimes, des fillettes de 8 à 15 ans. Il met en place une surveillance dans le quartier de la Villeneuve où sévit le violeur. Et par 3 fois, il lui échappe. Grâce à un témoignage, il pense l'avoir identifié. Daniel Bonigène, mécanicien et père de famille. Il décide d'aller l'interpeller avec un collègue. Et ils vont sur son lieu de travail, dans le garage où il travaille. Et le type leur dit...
C'est pourquoi ?
Quel aplomb !
Suffit les conneries, Bonigène. Vous êtes en état d'arrestation.
Il le menotte, et maintenant il faut attendre qu'on veuille bien lui envoyer une voiture de police. Direction le 4e étage du commissariat. Le patron, qui est corse comme lui, est triomphant.
Eh ben vous voyez, c'est un corse qui a résolu cette affaire, je l'avais parié.
Et l'interrogatoire commence, mené par le patron.
Qu'est-ce que vous faisiez dans le parc, monsieur Bonichon? Et pourquoi vous vous êtes enfui?
J'étais allé voir ma maîtresse. J'ai eu peur que ma femme la prenne.
Vous pouvez nous donner son nom?
Je veux pas, non. Je veux pas qu'elle ait des ennuis.
Les heures passent, et toujours rien de probant, même si le gars se perd de plus en plus dans ses contradictions. Et là, dans son coin, Savelli se rappelle que l'une des victimes a décrit une longue cicatrice à l'intérieur de la jambe droite. Il glisse l'info au patron, qui s'en empare immédiatement.
Bonichon, baissez votre pantalon.
Il s'exécute. Il a une longue balafre sur la jambe droite. Il n'y a plus de doute. Et là, autant vous dire que dans le bureau, les inspecteurs sont dans leurs petits souliers. Dans la foulée, Philippe et un officier des mœurs vont perquisitionner chez lui, à Échirolle, avec lui. Il tombe sur sa fille, 10 ans, son petit frère, 8 ans, et sa mère qui éclate en sanglots.
Vous devez faire une erreur. Mais dis-moi, Daniel, t'as fait quoi?
Mais rien, il se trompe, hein. Je te promets, j'ai rien fait.
Rien fait? Dans son placard à chaussures, Philippe met la main sur des baskets. Il reconnaît immédiatement la semelle qui colle parfaitement avec l'empreinte de pas dans le sang. Et puis dans la chambre des enfants, il trouve une perruque brune. Il est cuit. De retour au commissariat, Bonichon continue de nier, en bloc. Et donc on organise un tapissage. Toutes les petites victimes sont convoquées, placées derrière un miroir sans teint. Et on leur présente Bonichon au milieu de flics qui lui ressemblent. Et toutes, elles disent.
C'est lui là, c'est lui.
Elles l'identifient toutes, sans aucune hésitation. Et donc dans la foulée, Bonichon avoue. Trois ans plus tard, en octobre 1990, Daniel Bonichon comparaît devant la cour d'assises de l'Isère, à Grenoble. Dans la salle, il y a 7 de ses victimes. Les autres n'ont pas eu le courage de l'affronter. Les experts psychiatres le décrivent comme immature, mais pleinement conscient de la gravité de ses actes. Et ils sont deux à dire que s'il sort de prison, il recommencera. Et donc Daniel Bonichon est lourdement condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'à la faveur de remise de peine, il sort en 2001. Et il récidive 3 ans plus tard. Il viole 2 jeunes garçons, puis une jeune fille. Il est de nouveau arrêté et condamné fin 2008 à 20 ans de réclusion criminelle. Quant à Philippe Savelli, eh bien, il va terminer sa carrière comme simple gardien de la paix, à l'unité de vol à la tire. Le patron lui avait promis une promotion, mais pour avoir eu raison contre sa hiérarchie, son dossier est resté marqué d'une croix rouge. Il écrit « Le Joker a réussi son enquête là où tous les autres avaient échoué. Mais c'est un Joker, c'est une carte que l'on retourne et que l'on oublie. » Je suis donc avec Philippe Savelli, auteur de ce livre publié aux éditions Maya, « Mon combat pour la vérité ». Alors, est-ce que vous savez si Bonichon est toujours en prison? Vous le gardez à l'œil?
Il est toujours en prison.
Parce que là, il est conditionnable.
Oui.
Hein, il a été condamné à 20 ans en 2008, en 2018. À mi-peine, il est conditionnable
tout
au minimum.
Oui, oui.
Et s'il sort, vous serez tenu au courant?
Je pense pas, non.
Non,
non.
Probablement pas.
Non, non.
D'ailleurs, ça c'est un truc, on le dit jamais, mais les policiers qui font les enquêtes ont rarement des nouvelles des gars qu'ils ont fait condamner.
Pratiquement voilà. Jamais.
Pratiquement jamais. Alors, je vais vous dire les choses comme je le sens, et de toute façon, des tas de gens ont dû vous dire ça. On a du mal à la croire, votre histoire, parce qu'elle est tellement énorme.
Elle est si énorme, cette histoire, que j'ai eu du mal, j'ai mis énormément de mal à l'écrire, j'ai même mis des années à l'écrire, et puis arrivé à la retraite, je me suis dit, c'est pas possible que cette histoire reste dans les oubliettes. Je me suis dit, cette histoire, il faut la révéler pour diverses raisons, mais il ne fallait pas qu'elle reste dans les oubliettes.
C'est au fond, si on veut élargir au maximum le spectre, c'est l'histoire de la police qui résiste à la police. C'est la guerre des polices, mais dans le même commissariat, quoi.
C'est exactement ça, c'est la guerre des polices avec une grosse partie et une toute petite partie, comme je l'explique dans mon livre, c'est un peu David et Goliath.
Alors je vous propose de tout reprendre depuis le début, juste après la pub, et notamment à ce moment où le commissaire Nadjari vous mêle à cette enquête envers et contre tous. À tout de suite.
Vous êtes avec Christophe Ondelat jusqu'à 15h sur Europe 1. Christophe qui vous raconte aujourd'hui une histoire de guerre des polices très étonnante.
Je vous ai raconté aujourd'hui une histoire vraiment étonnante, l'histoire d'un gardien de la paix qui est ici avec moi, qui s'appelle Philippe Savelli, et qui dans les années 80 à Grenoble est parvenu à arrêter un violeur en série alors que tous les officiers qui avaient travaillé sur cette enquête s'étaient cassés les dents. Et c'est une histoire que j'ai tirée d'un livre que vous avez publié, Philippe Savelli, aux éditions Maya, qui s'appelle « Mon combat pour la vérité ». Alors je voudrais bien qu'on revienne au début, au moment où le patron, donc le commissaire Nadjari, se tourne vers vous dans cette enquête. Est-ce que le fait qu'il vous fasse confiance tient au fait que vous soyez corse tous les deux et seulement ça? Non.
Absolument pas, je pense pas.
Non, ça compte un peu?
Oui, je pense que ça compte un peu parce qu'il s'en est, il l'a proclamé à plusieurs reprises. Mais je pense qu'il m'a fait venir surtout parce que j'avais élucidé une importante affaire de stup alors que je portais la tenue. Et donc de là, il a fait appel à moi en me détachant à la sûreté urbaine en tant que civil et faisant fonction d'inspecteur.
Mais est-ce qu'il joue pas un peu avec vous sur ce coup-là? Parce que pour vous récompenser de l'affaire que vous venez de résoudre, il y a 1000 autres moyens, et notamment vous faire gagner un grade et vous orienter lentement, année après année, vers la police judiciaire. C'est parfaitement faisable.
Tout à fait, mais ça je m'en rends compte bien à la fin de cette affaire. Je me rends compte en fait qu'il a joué avec moi, mais il n'est pas le seul à avoir joué, puisque j'ai fait l'objet d'un pari, comme je l'explique dans mon livre. À la fin, il me présente une enveloppe avec un billet de un Pascal, un ancien franc.
Un Pascal, c'est 100 balles.
Cinquante balles. Et en disant non, mais vous inquiétez pas, Monsieur Savelli, c'est uniquement l'objet d'un pari. J'avais fait le pari avec tous les collègues de la sûreté, de la brigade des mœurs et de la brigade des mineurs, que vous réussiriez à interpeller cet individu.
Au fond, il vous met dans les pattes de la brigade des mœurs pour les faire suer, quoi.
Peut-être pour les faire avancer un peu plus vite, pour les faire travailler un peu plus. Toujours est-il que moi, je suis sur cette affaire et que je m'y mets sérieusement.
Il vous prévient que ça va être dur avec les autres ou il oublie de vous le dire?
Absolument pas. Ça, on n'en parle absolument pas au départ. Je me souviens de cette première réunion, ce premier briefing qu'on fait dans un bureau au quatrième étage où il y a tous les gradés des mœurs, les gradés des mineurs, les gradés de la fameuse... à l'époque, brigade criminelle.
Faut dire d'ailleurs, au passage, j'en profite, pour dire que tous ces gens-là ont changé de nom, c'est-à-dire qu'on dit plus inspecteur, on dit lieutenant et capitaine, on dit plus brigade des mœurs, ça s'appelle maintenant la brigade des familles. Donc tout ça a changé de nom, il y a un côté vintage dans cette histoire qui est assez marrant. Reprenons à cette réunion. Donc
dans cette réunion, tout le monde émet son avis, tout le monde dit un peu comment il voit les choses, et ça se termine que le commissaire principal se tourne vers moi et me dit « Monsieur Savelli, vous en pensez quoi de cette affaire ?» Donc j'ai étudié évidemment le
oui,
dossier.
Il vous a donné le dossier quand même.
Oui, tout à fait. Oui. Quand il m'a mis sur cette affaire, j'avais accès au dossier. Et donc j'ai étudié tout le dossier, toutes les auditions des gamines qui avaient été violées précédemment. Et donc j'ai donné mon avis, qui me semblait une évidence. Ça me semblait tellement évident que j'osais même pas le donner, cet avis, en disant « Écoutez, franchement, ce gars, on connaît le mode opératoire, comme on dit, le modus operandi, il serait simple de mettre une surveillance,
de
se planquer dessus les toits et surveiller le parc avec une paire de jumelles.
Mais quand les collègues des mœurs vous disent « Mais enfin Philippe, on n'a pas les moyens de planquer pendant des mois et des mois au sommet d'une tour », ils n'ont pas totalement tort. C'est-à-dire que ça suppose un investissement personnel qui n'est pas forcément à la portée d'un service. Peut-être que c'est à la portée d'un homme en vérité, mais d'un service c'est beaucoup plus compliqué.
Alors, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que quand je fais cette proposition, il y a un seul collègue qui me répond et qui c'était un responsable de la brigade des mœurs qui me dit on n'est pas en Amérique, on n'a pas les moyens de travailler comme ça. Si vous n'avez pas les moyens, moi je suis capable de le faire.
Puis, mais non, vous êtes à plein temps là-dessus, vous. Donc,
Non, je ne suis pas à plein temps.
Ah, vous n'avez pas que ça ?
Non, je suis affecté dans un bureau de police. Mon travail est de faire des dossiers de ministère public, de recevoir des gens sur des plaintes, de prendre des plaintes. J'ai d'autres dossiers à faire, mais le commissaire principal me demande principalement de m'occuper de cette affaire.
Alors quand on dit que vous y passez 5 mois, c'est quand même pas de 8h du matin à 20h le soir. De toute façon, il n'opère qu'en fin d'après-midi, c'est ça, cet homme-là ?
C'est ça, dans le milieu d'après-midi, en fin d'après-midi. Donc moi, je calcule et je fais mes recherches dans les horaires que je connais, dans les horaires où il a déjà violé.
Pendant 5 mois, vous montez vraiment sur ce toit tous les après-midi, vous vous couchez, vous mettez vous équipez de vos jumelles et vous regardez. Pas tous les jours.
Pas tous les jours.
Il y a un côté aléatoire.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qu'on dit dans votre bureau de vous voir partir comme ça ? Vous caillez là-haut sans doute en hiver ?
Ben moi quand je fais ça et puis j'en discute une fois avec un inspecteur qui me dit de toute façon on l'aura pas comme tu fais, parce que moi je leur fais le reproche quand même à tous ces inspecteurs excusez-moi l'expression, mais de ne pas rester leur cul assis sur une chaise dans leur bureau. C'est pas comme ça qu'ils vont réussir à interpeller l'auteur des viols, mais d'être sur le terrain. Et moi, on me fait le reproche d'être trop souvent sur le terrain. Alors voilà, j'ai choisi d'être toujours sur le terrain. Et effectivement, ça n'a pas été facile.
Alors, il y a un moment qui est très touchant dans cette histoire. C'est le récit que vous faites de cette rencontre avec cette petite fille. Ça n'est quand même pas la première fois que vous entrez dans un moment d'une intensité humaine lourde. Vous avez travaillé à police secours, notamment précédemment. Chaque policier, même en tenue, est confronté à des situations paroxystiques, de détresse considérable. Mais il y a une appréhension à interroger cette petite fille.
Ben, l'appréhension, c'est que cette petite fille, à l'époque, elle a l'âge de ma fille. Non seulement elle a l'âge de ma fille, mais c'est une petite brune avec des yeux marrons, comme ma fille. Et quand je vois cette fille en face de moi, j'ai l'impression de voir ma fille.
Vous faites un transfert, hein ?
Tout à fait.
Et alors, vous vous posez la question de comment je vais lui parler. Alors, parce que vous avez une fille du même âge, donc vous savez parler aux filles de 12 ans.
Voilà, donc je lui pose des questions, mais c'est vraiment des questions, je la laisse plutôt parler toute seule.
Parce que vous n'avez pas été formé à ça. Aujourd'hui, il y a des formations pour interroger des mineurs violés. Tous les policiers ne font pas ça. Certains policiers ou gendarmes sont affectés spécifiquement à ce type d'interrogatoire. Mais bon, vous y allez avec ce que vous savez, quoi.
J'y vais avec des sentiments, des intuitions qui font que je mets... C'est vrai que c'est très difficile de parler à une petite fille de cet âge-là qui a subi cette agression. Mais... En fait, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que je m'en rends compte que j'arrive à la mettre en confiance et je me rends compte que cette petite fille, ben, elle parle. Elle parle. Et elle parle et quelque part, je sens qu'elle est libérée quand ça la libère quand elle parle.
Nouvelle pause, Philippe Savelli. Je rappelle le titre de votre livre, Mon combat pour la vérité, édité aux éditions Maya. Je veux qu'on parle dans un instant de cette accusation qui est portée contre vous tout au long de l'enquête par vos collègues. Tu vois des violeurs partout. À tout de suite.
Jusqu'à 15h sur Europe 1, vous êtes avec Christophe Ondelat qui aujourd'hui vous raconte une histoire peu banale dans les années 80 sous fond de guerre des polices. Christophe.
Je vous ai raconté aujourd'hui une histoire vraiment étonnante, l'histoire d'un gardien de la paix qui est là avec moi, qui s'appelle Philippe Savelli et qui dans les années 80 à Grenoble parvient à arrêter un violeur en série alors que tous les officiers qui ont travaillé sur son enquête s'étaient cassés les dents précédemment. C'est une histoire que j'ai tirée d'un livre que vous avez écrit, vous nous avez expliqué tout à l'heure que ça vous a pris beaucoup de temps, et publié aux éditions Maya, qui s'appelle « Mon combat pour la vérité ». Alors tout au long de votre enquête, vos collègues vous disent « Tu vois des violeurs partout. » Et sans doute n'ont-ils pas complètement tort. D'ailleurs, vous le reconnaissez à un moment dans le bouquin. Vous dites, c'est pas faux. Ça devient obsessionnel au bout d'un moment.
Ça devient obsessionnel, mais c'est forcé parce que on a des éléments sur cette affaire. On a cette fameuse empreinte. Donc, il faut travailler. On a que ça au départ. On a cette empreinte de basket qui est prise sur une tache de sang de la victime.
Un jour, vous marchez. Et il y a un type qui marche avec des baskets devant vous. Il a marché dans l'eau, ce qui fait que ses pas s'impriment sur le sol. Et vous dites, c'est lui. Parce que vous connaissez l'empreinte de basket par cœur.
Alors non, je dis pas c'est lui, il se peut que ce soit lui parce oui. qu'effectivement, c'est l'empreinte. Et quand on interpelle cet individu et qu'on prend sa paire de baskets, il s'agit bien de la même empreinte et de la même marque qui avait été identifiée à l'époque comme étant une paire de chaussures vendue dans une grande surface.
Mais est-ce que ça rend pas un peu fou, au fond, de travailler seul sur une telle enquête pendant des mois?
Bien sûr, ça rend fou, parce que quand j'ai fait cette première interpellation, j'ai dérangé ces messieurs qui restent dans leur bureau, je les ai dérangés, je les ai obligés à travailler, à faire une mise en garde à vue, à faire des auditions, et ça ne leur a pas plu. Et comme ça ne leur a pas plu, forcément, le premier gars que j'ai interpellé, et d'ailleurs le seul, je voyais des violeurs partout. Mmh. C'est ce qui a été dit, mais c'est totalement faux.
Et on voit que ça gangrène votre cerveau, parce que au moment où vous allez l'interpeller, ça va se terminer comme ça, mais la troisième fois, vous le coincez, et puis vous voyez ses yeux sont bleus, toutes les gamines ont dit que les yeux étaient marrons, et là vous avez le doute, vous vous dites, mais ils ont peut-être raison, je deviens peut-être complètement taré.
Exact, c'est exact. Non seulement ils me mettent une pression telle que je commence à avoir des doutes, mais en plus, ces pauvres gamines qui sont agressées physiquement et qui voient un gars qui a une postiche avec des lunettes de soleil, imaginez-vous, elles ne peuvent pas dire très clairement que le gars a des yeux bleus ou des yeux marrons.
L'histoire des yeux marrons, c'est les lunettes de soleil. En
c'est les lunettes de soleil, tout à fait, voilà. Et en fait, je me trouve avec un gars avec des yeux bleus, et là, avec la pression des officiers de police judiciaire, là j'ai le doute et je le relâche.
Alors vous êtes à la retraite maintenant, est-ce que vous estimez que vous n'avez pas eu la carrière que sans doute vous rêviez d'avoir?
C'est vrai.
Il y a de la frustration.
Tout à fait.
Ça tient à quoi?
Ça tient au fait que j'étais un gardien de la paix. Un gardien de la paix qui a fait un travail qu'il n'aurait pas dû faire d'après certains, qui a mis en évidence les carences de tout un service, vous imaginez, d'officier de police judiciaire. À l'époque, comme vous dites, inspecteur, inspecteur principal, inspecteur divisionnaire, maintenant on appelle des lieutenants, des capitaines et des commandants. Imaginez ce gardien de la paix qui se trouve face à une telle administration, à un tel monstre, on va dire. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met le gardien de la paix dans un placard et on l'oublie.
Mais ça a duré 30 ans.
Ça a duré.
La vie dans le placard.
Ça a duré tout le reste. Non, si vous voulez, quand je dis qu'on m'a mis dans un placard, c'est que j'étais à la sûreté urbaine, c'est que je faisais fonction d'inspecteur, je faisais un travail de police judiciaire, un travail d'enquête, et on m'a remis à la sécurité générale, en police secours.
Oui. Voilà. Dans les bagnoles qui patrouillent, quoi.
Voilà, tout à fait.
Est-ce qu'une histoire pareille pourrait avoir lieu aujourd'hui?
Je pense pas.
Pourquoi?
À ma fin de carrière, j'ai rencontré des jeunes officiers qui sortaient des écoles, très compétents. J'ai pas vu la même mentalité. J'ai l'impression que les générations ont changé, les générations ont évolué, et il y a une certaine évolution, je dirais, du côté des officiers de police judiciaire.
Mais les inspecteurs de l'époque et les lieutenants ou les capitaines d'aujourd'hui, certains viennent du grade de gardien de la paix. Ça arrive encore aujourd'hui qu'on arrive à progresser dans la carrière jusqu'à devenir lieutenant en ayant commencé gardien de la paix.
Tout à fait. C'est peut-être ceux-là qui sont le plus jaloux de ceux qui sont en bas et qui montrent leur preuve, leur qualité dans le travail.
Vrai?
Vrai. Oui. C'est ceux-là peut-être qui sont le plus jaloux des... Parce que justement, ils ont été gardiens de la paix, ils ont passé des concours, ça les a obligés à se déplacer, à changer de ville, à partir ailleurs.
Oui, parce que c'est ça aussi, l'idée que vous n'avez pas progressé, c'est que vous êtes resté là, à Grenoble.
Voilà, je voulais pas quitter Grenoble, je voulais rester sur Grenoble, je voulais pas, voilà, je suis quelqu'un de Grenoble et je voulais pas quitter le Grenoble. Et c'est aussi une affaire privée, il y a tout un aspect familial derrière.
C'était passionnant en tout cas de vous rencontrer, d'entendre votre histoire tant d'années après. Hein. Personne ne va se lever aujourd'hui pour dire « Ah mais j'étais inspecteur à la brigade des mœurs à Grenoble en 1988 ». Peut-être hein. Et peut-être que quelqu'un va venir nous dire « Mais attendez, Savelli, oh là là, vous le connaissez pas vraiment, etc. » On verra bien.
On verra.
L'histoire est posée là. Merci infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, Philippe Savelli, édité aux éditions Maya. Alors tout ça avec Internet, ça n'a aucune importance. On trouve tout sur Internet aujourd'hui. « Mon combat pour la vérité ». Cette histoire qui est disponible à partir de maintenant en podcast et sur toutes les plateformes de diffusion. Mon bras n'est pas assez long pour vous en citer la liste. Vous pouvez aller nous écouter sur YouTube, vous pouvez nous écouter sur Deezer, vous pouvez nous écouter sur Alexa, l'assistant personnel d'Amazon, sur le site europe1.fr, sur l'appli podcast de votre choix et notamment celle de votre téléphone. Demain, je vous raconterai une formidable histoire que je vous ai déjà racontée, mais que j'ai complètement réécrite, qui est l'histoire de Paul Grapp. Pendant la guerre de 14, il est déserteur, et pendant sa désertion, il décide de vivre en femme. Il se déguise en femme, mais en vérité, au fond de lui, il est transsexuel et aura beaucoup de mal, après la guerre, à redevenir un homme, au point qu'au bout de l'histoire, sa femme va l'assassiner. Demain donc, à 14h. Olivier Delacroix, dans un instant, très bon après-midi à vous tous. À demain.
Merci, bel après-midi à vous aussi, Christophe Ondelat. On retrouve bien sûr tous vos récits disponibles dès maintenant en podcast sur europe1.fr. Dans un instant, à 15h pile sur Europe 1, c'est Olivier Delacroix qui vous écoute comme chaque jour. Bonjour Olivier.
Bonjour Anissa.
Quel est le programme de ce mercredi?
Aujourd'hui, nous allons parler des pères au foyer. Pourquoi font-ils ce choix et que vivent-ils lorsqu'ils décident de favoriser l'éducation de leurs enfants par rapport à leur carrière?
Et je crois qu'ils sont de plus en plus nombreux. Alors si vous en faites partie, si vous êtes père au foyer, si vous avez pris cette décision, eh bien venez en parler. 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et puis on lit tous vos messages également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.